Bienvenue sur Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je suis Adrien Garcia, designer et fondateur de la marque de vêtements Réuni. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité du monde de la mode pour comprendre son parcours, ses problématiques et ses stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi les outils, les méthodes et les apprentissages clés d'un entrepreneur à succès. Pour ne pas rater les prochaines, inscrivez-vous gratuitement sur www.entreprendredanslamode.com. Enfin, si vous souhaitez sponsoriser ou co-créer du contenu avec Entreprendre dans la mode, c'est possible. Là encore, rendez-vous sur le site web du podcast. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Je suis aujourd'hui avec Kenneth Koo, le cofondateur de Oris en français. Je voulais te rencontrer, en tout cas, c'est pas la première fois qu'on se rencontre, qu'on s'est rencontré au parc à chiens.
C'est vrai.
On n'habite pas très loin l'un de l'autre, je t'ai reconnu parce que je suis assez physionomiste. J'ai du mal à me rappeler des prénoms des gens, mais je suis assez physionomiste. Mais en tout cas, je t'ai reconnu et je t'ai abordé et on a discuté un petit peu, donc on a déjà fait connaissance. Moi, je suis tombé amoureux de votre marque assez récemment. On en parlait juste avant hors micro. Je t'ai vu, je pense, sur Carton, Carton Magazine, je crois, hein. C'est un compte, ouais. Instagram hyper inspirant qui a été fondé par qui ? Comment elle s'appelle ?
Julie André,
qu'on salue si jamais elle nous écoute. Elle fait un super boulot en édito sur ce compte Instagram et je suis tombé amoureux du produit. Et je trouve que vous êtes vraiment l'incarnation de cette idée que le beau fait vendre et que quelque chose de très beau, eh ben, ça te fait passer à l'acte, ça te fait passer à l'achat. Et moi, je suis tombé amoureux du produit et j'ai tout de suite voulu en acheter. Donc, j'ai acheté, j'ai testé et c'est très, très cool comme produit.
Merci.
Je commence comme ça. C'est rare que je parle autant avant, en commençant mes interviews, mais ce que je te propose, c'est que tu te présentes. Qui es-tu, Kenneth ? Et ensuite, revenir sur l'ensemble de ton parcours jusqu'à la fondation de Oris avec ton associé. Voilà, à toi la parole. Et juste une dernière chose avant, c'est que bon, Kenneth est d'origine canadienne et chinoise. Moi, je trouve que tu parles très bien français, mais tu as un petit accent et c'est un peu complexant parfois,
oui,
pour toi.
Oui,
mais en tout cas, merci beaucoup de faire cet effort de le faire en français pour toute l'audience qui parle français. Je sais que ce n'est pas un exercice facile pour toi et faire un podcast dans sa langue qui n'est pas sa langue maternelle, eh ben, ce n'est pas simple. Donc, bravo et merci, Kenneth.
Bah, avec plaisir. Donc, bonjour à tout le monde. Je me présente, je m'appelle Kenneth Koo. Je suis un des cofondateurs d'Oris, qui est une marque de cosmétiques basée à Paris. Je viens d'avoir 30 ans et j'ai des origines chinoises-canadiennes. Donc, on va revenir au tout début. Hein. Mes parents sont chinois. Moi, personnellement, j'étais né à Hong Kong.
Okay.
Mais j'avais grandi et je vais passer presque toute ma vie au Canada,
okay,
à Toronto, qui est la partie qui est plutôt anglophone. Et quand j'étais plus jeune et quand j'étais au lycée, j'ai toujours été quelqu'un de très scolaire. Jamais beaucoup, en fait, étudier, apprendre des choses. J'étais toujours un très bon étudiant. Je m'intéressais à plein de différents sujets. L'histoire, mathématiques, art plastique,
ouais,
tout ça.
Pose bien le micro sur le menton, ouais.
Et même la langue française. Enfin,
ouais.
Je voulais toujours maîtriser la langue française.
Okay.
C'était un de mes passions. Je trouvais,
okay,
que la langue était très belle.
Mais alors ça, est-ce que c'est un peu cliché de dire ça, mais est-ce que c'est pas un truc très chinois, justement, d'être bon élève, d'être bon partout, et est-ce que tes parents te mettaient une pression folle pour que tu sois un bon élève ? C'est un peu ce qui ressort souvent des communautés chinoises.
Oui, je suis d'accord avec cette stéréotype, mais avec mes parents, c'était pas forcément le cas. Parce qu'en fait, c'est toujours moi qui se mets de la pression d'avoir des meilleures notes,
okay,
d'être le meilleur de la classe. Donc eux, ils n'étaient jamais trop inquiets par rapport à ça.
Okay.
Mais par rapport à la culture chinoise, c'est vrai que mes parents, ils ont tous les deux travaillé dans une banque. C'était, ils ont eu des carrières qui étaient vraiment des boulots 9 to 5. Et pour moi, dès mon enfance, ils m'ont toujours dit, en fait, ce qui est important dans la vie, c'est pas forcément de gagner beaucoup d'argent, mais d'avoir, en fait, la stabilité. En fait, il y a cette idée de, en fait, dès que tu bosses, il faut que tu mettes de côté pour acheter une maison et ensuite économiser pour la retraite. Donc, ouais. C'est plutôt ces idées-là qui étaient très importantes dans
ma famille. Et tu les as écoutées?
pas forcément. Voilà, mais au niveau de la pression, non, ils n'ont pas mis trop de pression sur
D'accord.
moi.
D'accord, ok, très bien. Et pourquoi ils sont allés au Canada?
En fait, justement, ils étaient à Hong Kong et c'était en fait le changement de, enfin, entre l'Angleterre et la Chine. Et ils savaient que, enfin, ils étaient pas contents du changement. Ils savaient que, enfin, ça va avoir des gros effets sur le pays. Qui aujourd'hui, on sait, c'est le cas. Enfin, j'ai toujours de la famille à Hong Kong. Il y a des gens qui, enfin, il y a beaucoup de la population qui quitte Hong Kong aujourd'hui à cause de la situation politique.
Ouais.
C'était surtout ça que mes parents sont partis.
D'accord. Et ils sont partis il y a combien de temps, donc? Il y a 15, 20 ans, 30 ans?
Plus, presque, plus de 25 ans maintenant.
D'accord, ok. Donc là, ouais. Donc toi, t'es né à Hong Kong, mais t'as passé combien de temps au Canada?
J'ai déménagé au Canada quand j'avais 5 ans.
D'accord, ok.
Donc,
trop bien.
20... Ouais, je sais plus combien d'années. Parce que c'est ma vie, quoi.
Ok, et là, donc au Canada, t'étudies quoi? T'apprends quoi?
En fait, justement, à la fin du lycée, hein, j'avais postulé pour plein d'écoles de commerce et des universités pour les mathématiques. Enfin, les meilleures écoles. Et en fait, c'était pas forcément ce que je voulais faire. Enfin, j'avais fait ça juste pour, en fait, faire plaisir à mes parents. Mais je savais, en fait, que j'allais pas aller dans une école de commerce. Et donc, à la dernière minute, j'avais fait le choix d'aller dans une université à Montréal. Et c'était la seule école, enfin, où j'avais postulé. C'était pour une licence en lettres.
Okay.
Donc, c'est pour ça que, enfin, j'ai fait ce choix-là. Et en fait, à l'époque, j'avais dit à mes parents que j'allais partir à Montréal pour étudier l'économie, qui n'était pas faux parce que j'avais commencé par des études dans l'économie, mais dans cette école Montréal. Mais en fait, j'avais vite changé pour l'histoire de l'art,
okay.
Que j'avais un peu caché de mes parents, enfin au début, ils ne savaient pas du tout. Et en fait, je me suis rendu compte quand j'avais suivi des cours en histoire de l'art que, en fait, c'est un sujet qui m'a fasciné beaucoup parce que apprendre ou étudier l'histoire de l'art, c'est vraiment d'apprendre l'histoire, la philosophie, l'anthropologie, tout ça à travers des images, des objets. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose qui m'a beaucoup intéressé.
Ouais.
Regarder des jolies images toute la journée.
Trop bien.
Ouais.
Donc ça t'a beaucoup inspiré. Donc c'est ce que t'as fait à Montréal.
À Montréal.
D'accord. Donc à Montréal, on parle français et anglais, c'est ça?
Oui, mais c'était une école anglophone où j'étais. Et en fait, je pense que j'ai à peine parlé un mot de français quand j'étais à Montréal.
Dommage.
Parce que quand tu es dans ce genre d'école, c'est tout une campus, donc toute la journée t'es avec d'autres étudiants anglophones, donc t'as pas trop de la chance de parler le français.
Et alors à l'époque, quand t'es enfant, plutôt adolescent, qu'est-ce que se dit un petit chinois au Canada, comment il se projette sur le futur? Tu t'imaginais faire quoi?
Justement, j'avais aucune idée.
Ouais.
Déjà, je savais, mes parents voulaient que je devienne médecin parce que mes cousins, ils sont tous devenus pharmaciens, médecins, chirurgiens, ce genre de métier.
Ouais.
J'avais une tante et un oncle qui étaient des infirmiers, donc il y a tout ce côté médical, mais moi, j'ai jamais pas du tout déjà la biologie, la chimie, tout ça, c'était pas trop mon truc.
Ouais.
J'aimais un peu plus les mathématiques.
Ouais.
C'est pour ça que je me suis dit, ok, peut-être la commerce, le business, pourquoi pas, mais je pense que je me suis rendu compte, enfin, je me connaissais assez bien et je savais, en fait, c'est pas, enfin, si c'est quelque chose que je vais faire et que je sais que je vais pas aimer, enfin, on va passer à autre chose, on va pas perdre de temps parce okay. que.
C'est clair. D'accord. Donc là, à Montréal, ça dure combien de temps tes études ?
C'était 4 ans.
Ouais.
Et en fait, c'était pendant mes études à Montréal que je suis venu à Paris. C'était en 2012. C'était pour faire un Erasmus.
D'accord.
À Paris. Et en fait, au début, c'était pas vraiment mon premier choix. Je voulais aller à Londres, okay. mais ils m'ont pas pris. Par hasard, j'avais écrit à la Sorbonne pour dire, ok, est-ce que vous prenez des étudiants internationaux en échange, etc. Ils ont dit oui. On va vous envoyer un formulaire. Voilà, et comme ça, ils m'ont pris et j'avais pris mon billet pour aller à Paris à la dernière minute. Et okay. c'était en 2012. J'étais étudiant en histoire de l'art à la okay. Sorbonne, du coup.
Très bien. Et donc là, c'était en français ?
C'était en français.
C'était d'être hyper dur, non ? Parce que tu maîtrisais pas hyper bien le français. Pas du
ouais,
tout.
Ouais, c'était galère. Ouais. Si tu peux imaginer, même un français qui fait la fac,
c'est déjà compliqué.
C'est
ouais.
déjà compliqué. Donc moi, j'étais complètement perdu. Et c'est pour ça aussi que j'ai commencé un stage dans une. Enfin, je vais faire autre chose à côté. Je vais faire un stage dans une galerie d'art à Paris.
Ok.
Et aussi,
dans laquelle?
Ça n'existe plus.
Ok.
Ça a fermé depuis.
À cause de toi.
sans doute. Et après quelques semaines, je me suis rendu compte, en fait, je veux pas devenir galeriste parce que tout de suite, c'était clair que c'est un métier qui est très commercial et beaucoup dans la vente. Et ça me plaisait pas beaucoup et surtout je savais que j'avais pas forcément la personnalité de faire ce genre de métier et pour moi il y a beaucoup de choses dans ma vie, c'est comme ça, c'est process of elimination, je sais que j'aime pas ça, donc on va passer à autre chose parce que si on tente pas, on va pas savoir si ça
te plaît ou pas, ouais,
ouais voilà. Mais aussi, j'étais hyper reconnaissante de cette expérience parce que c'était ma toute première expérience professionnelle en France et en français où j'ai dû travailler toute la journée en français. J'étais assistant galerie, donc j'ai dû appeler les journalistes tous les jours, faire le RP, faire des communiqués de presse, tout ça. Donc c'était dur, mais ça m'a forcé d'apprendre le français très rapidement.
Ok, fait. Trop bien.
Ouais.
Parfait. Et donc là, ça dure combien de temps, la Sorbonne ?
C'était un an.
Un an ?
Ouais.
Et derrière, tu fais quoi ?
Et après un an en France, en fait, j'ai dû retourner à Montréal parce que j'ai dû terminer mon diplôme.
T'as aimé la France quand même ou c'était une bonne surprise ?
Oui, j'ai adoré la France. C'était, au niveau culturel, c'était complètement culture shock. Ça n'a rien à voir avec l'Amérique du Nord. Je sais pas. Je me souviens la première fois que je suis arrivé à Paris, j'ai pris le taxi avec mes bagages et tout. On voit les immeubles, l'architecture, parce que ça n'existe pas au Canada. Ça n'existe pas même aux États-Unis. Ce genre d'architecture, on voit jamais, on voit que dans les films. Donc pour moi, c'était quand je suis arrivé à Paris, c'était comme Emily in Paris, tu vois. Ouais. J'étais totalement
halluciné.
Ouais, ouais, c'est ça. Donc voilà, après mes études à Montréal, c'était des études assez théoriques. On lisait beaucoup, on écrivait beaucoup. Et je ressentis un peu perdu et je savais toujours que je voulais faire quelque chose avec mes mains et que je voulais quitter le Canada et revenir en France, à Paris. Et donc en 2015, je suis revenu à Paris pour faire les Beaux-Arts de Paris.
Ok.
Et j'étais très, très intéressé par la photographie à l'époque, notamment la photo argentique. Enfin, ouais. J'y faisais aussi des livres d'artistes, un peu de broderie aussi, donc okay. Enfin, un peu de tout. Et en fait, quand j'avais décidé d'entrer dans les beaux-arts, enfin, je savais déjà dans ma tête, en fait, le but, c'était pas forcément de devenir artiste, hein, parce que j'avais bossé dans une galerie, je connaissais des artistes, je sais, enfin, ce que c'est une vie d'artiste. Il faut être très, très patient, enfin, il faut faire le marketing pour soi-même. C'était pas forcément ce que je voulais faire, mais pourquoi faire les beaux-arts? En fait, je voulais avoir, enfin, une formation plus technique,
ouais.
Et en fait d'avoir accès enfin à toutes les ressources de l'école, apprendre comment faire par exemple les tirages argentiques, de pouvoir utiliser des traceurs pour imprimer des grosses images, faire la reliure des livres, tout ça. Enfin, c'était un univers que je connaissais pas forcément. Enfin, parce que c'était mes études avant, c'était enfin on regardait des images, enfin on faisait des dissertations, mais enfin il y avait pas ce côté technique travaillé,
ouais, à la main,
d'être créatif,
okay.
Qui m'a manqué beaucoup.
Trop bien. Et ça dure combien de temps les beaux-arts?
En fait, c'était censé de durer 4 ans,
ouais.
Mais j'avais juste fait 1 an.
Ok.
Parce que, en fait, après la première année, j'ai commencé un stage dans une agence qui représentait des photographes, stylistes, set designers. Donc, c'était dans le milieu de la mode.
Ok.
Et j'étais très intéressé par la mode aussi parce que je trouvais que. Enfin, déjà, c'était un monde que je ne connaissais pas du tout.
Mais okay.
Aussi, je trouvais qu'il y avait beaucoup de créativité dans la mode. Enfin, beaucoup d'images fortes. Le rythme était aussi beaucoup plus dynamique, plus rapide que dans l'art contemporain. Parfois, enfin, dans l'art contemporain, c'est un peu long. Et donc, à cette agence, pendant le stage, je m'occupais de la prod, des shootings, gérer des artistes, leur planning, gérer les tournages, tout ça. Et ça me plaisait beaucoup au début parce que je passais pas mal de temps sur les shootings, entouré par des gens hyper talentueux.
Ouais.
J'adorais voir en fait comment chacun travaille dans leur manière différente.
Et alors, comment ils travaillent, les gens? Il y en a qui t'ont marqué en particulier?
Ce que j'avais remarqué, c'est que chacun a leur style de travail différent. Parfois, ça dépend aussi si ce sont des photographes nature morte, si c'est des photographes qui travaillent en argentique, leur façon comment ils engagent avec les mannequins, comment ils parlent, comment ils donnent de la direction. Enfin, ils étaient tous différents,
ouais,
en fait. Chaque fois, c'est une expérience différente. Et en fait, à chaque shooting, c'est différent parce que tu as un photographe que tu connais bien, mais tu connais pas le styliste, tu connais pas le
set designer.
Donc, à chaque fois, c'est une expérience un peu différente. C'était un travail qui était assez dynamique. Pourquoi j'avais quitté les beaux-arts? Parce qu'en fait, rapidement, ils m'ont proposé un CDD et après un CDI. Donc,
d'accord.
J'étais déjà vite dans cet univers-là et je me suis dit.
Et ça, c'était quoi? C'était chez Bird Productions, c'est ça?
Ouais.
D'accord. Et ils font. Donc, eux, ils sont vraiment c'est une boîte de prod, en fait, Bird Productions, c'est ça?
Non, en fait, c'est une agence de photographes, mais en fait, je ne sais pas pourquoi ils ont production dans leur nom, mais ils ne font pas forcément de la production. Ils font de la prod pour leurs artistes, mais je ne pense pas qu'ils font pour.
Photographeurs, stylistes, set and creative design, retouching, moving image, agency. Ok, hyper cool. Et c'est une boîte qui est à Paris, Berlin, Milan. C'est quand même une grosse boîte, quoi. C'est quelque chose qui est assez conséquent et qui a des clients du type. Parce que toi, tu as bossé sur des choses comme Hermès, Céline, Louis Vuitton, Chanel, Acne Studio, APC, Off-White, COS, Arquette, Issey Miyake, Parfum, Days Group, BMW. Aime le monde, Double, Purple, Gentlewoman, enfin voilà, tous les gros acteurs du monde de la mode notamment, mais pas que, et de la beauté, du parfum, etc. Hyper intéressant. Et donc là, ça dure quand même 20 mois, quoi, un an et 8 mois, pratiquement 2 ans.
Presque 2 ans. Et,
et tu kiffes?
Enfin, Au début, oui, j'ai beaucoup aimé, mais à la fin, j'ai fait un peu burn-out.
Ouais, c'était intense,
C'est très, très intense. Il faut savoir, en fait, quand tu passes une journée en shooting, c'est comme travailler 3 jours, parce que c'est le rythme est tellement intense et il y a tellement de pression dans ce genre de travail. Et en plus, tu bosses pas forcément sur un projet à la fois. Tu fais genre 6-7 shoots, enfin, tu gères 6-7 shootings parfois à la fin. Donc ça peut... Ça prend de l'énergie mentale, tout ça.
Ouais, j'ose même pas imaginer, c'est très très intense.
Physiquement, ça demande beaucoup aussi, enfin pour moi au moins. Étant mon premier boulot.
Ouais. T'as pris cher. C'était un peu compliqué.
Mais le côté que j'avais beaucoup aimé aussi, c'est qu'en fait, c'était un univers qui était assez international.
Ouais.
Donc tu es tout le temps en contact avec des Américains, des Italiens, des Espagnols. Enfin, tu rencontres beaucoup de gens, parfois seulement qui sont français ou européens, mais c'est un univers qui est très international.
Trop bien. Ok. Et donc là, tu pars et tu rejoins... tu deviens creative producer en freelance, c'est ça?
Oui. J'ai pris un peu de temps après que j'ai passé en agence. Je suis allé à Hong Kong pour visiter ma grand-mère. Je suis allé au Canada pour voir mes parents.
Okay.
Je voulais prendre du temps pour voir ce que je voulais faire. Je suis revenu à Paris. J'ai commencé à bosser sur des projets freelance, mais à un rythme plus lent. Juste relancer des anciens clients, faire quelques projets par-ci, par-là, et aussi travailler sur mes projets personnels à côté, mes projets artistiques, mes projets de photos. Donc, j'avais pris en fait le temps pour moi-même d'essayer de trouver en fait ce que je voulais faire, parce que c'était pas forcément, je voulais pas, enfin, en fait, je savais que je voulais pas rester forcément dans la production photo, vidéo toute ma vie.
Okay.
Et en fait, j'étais en train de trouver une sorte d'exit, tu vois.
Okay.
Quand j'étais freelance, je suis tombé sur en fait un boulot qui était juste posté sur Instagram pour travailler pour un grand magasin à Paris.
Ouais.
J'ai eu le poste, c'était un contrat en freelance.
Okay.
C'était plutôt un boulot qui était de 9h30 à 18h30. Il faut prendre le métro tous les jours pour aller sur les champs, travailler dans un bureau. J'avais plus vraiment cette habitude. Et donc, pour moi, ça c'était un changement, vraiment. Et en plus, c'était quand il y avait des grèves de métro, donc j'ai marché.
C'était à l'ouverture des grèves Lafayette, non, c'était au démarrage. Et c'était à l'époque où il y avait Clara Cornet encore la DA.
J'avais pas commencé quand ils ont lancé.
D'accord.
C'était, je crois, que 6 mois ou 8 mois pour le lancement.
D'accord.
Donc c'était déjà un peu établi. Voilà.
D'accord. Et donc là, ton job, c'est vraiment de l'achat d'art, la production liée au projet image pour ce magasin, pour les Galeries Lafayette Champs-Élysées.
Ouais. Et c'était pour moi une expérience vraiment cool et différente, en fait, de travailler in-house et pas dans une agence, pas en free, parce qu'en fait, t'es en contact avec beaucoup d'autres personnes, par exemple, d'autres équipes, par exemple, dans le merchandising, enfin, les achats, les partenariats, tout ça. Et j'ai vraiment rencontré des très, très belles personnes qui faisaient des trucs hyper intéressants. Et donc, pour moi, c'était une expérience qui me plaisait beaucoup, parce que, en fait, j'ai beaucoup appris au final.
Trop bien.
Après quelques mois, il y avait le Covid qui est arrivé.
Le fameux.
Et donc, on était tous en confinement. Il n'y avait plus personne qui avait le budget pour les projets marketing.
Okay.
Surtout pour un magasin physique comme ça qui était fermé. Hein. Ils ne voulaient plus simplement dépenser de l'argent
sur
ce genre de choses.
Bien sûr.
Et donc, pour moi, et je pense pour beaucoup de gens, c'était une grande période de réflexion.
De doute.
Et en fait, mon associé Lani, qui était une copine à moi, à ce moment-là, on avait déjà travaillé sur Auris pendant presque un an avant la pandémie. Okay. Et en fait, pourquoi on avait créé Auris, mais en fait, on n'a pas vraiment commencé avec un projet de créer une marque de cosmétiques. C'était vraiment un truc beaucoup plus organique.
C'était un side project comme ça.
Voilà. Et en fait, c'était vraiment un truc que j'avais fait pour répondre à une demande personnelle. Hein, parce qu'en fait, toute ma vie, j'ai souffert d'eczéma et de psoriasis sur mon corps.
Okay.
Et j'avais du mal à trouver des produits sur le marché qui correspondaient vraiment à ce que je recherchais. Soit il y avait des ingrédients synthétiques qui étaient irritants pour ma peau, ou c'était les produits ou des marques qu'on retrouve dans les parapharmacies qui ont des packaging, qui ont des branding très froids, très aseptisés.
Ouais.
C'était pas, enfin,
pas très sexy, c'est clair.
Enfin, on prend pas de plaisir en utilisant ces produits, c'est juste pour la fonctionnalité.
Hein. Ouais.
Mais pour moi, ça me donnait pas envie.
Okay.
Et donc, il y a 4 ou 5 ans, j'avais commencé à fabriquer des savons à froid pour moi-même.
Ok. Tu les fabriquais chez toi?
Oui.
Ok.
Enfin, c'était pour vraiment un truc que je faisais pour moi-même. Et,
comment on fait du savon à froid?
C'est, en fait, le savon à froid, c'est un processus artisanal. On prend une matière grasse et on mélange avec de la soude. Et en fait, tout le processus de saponification, c'est un processus chimique.
Okay.
Et donc, la matière grasse qu'on mélange avec un ingrédient basique comme ça, ça devient du savon. Et en fait, c'est exactement le processus qu'ils ont utilisé il y a 5000 ans, par exemple chez les Grecs ou chez les Babyloniens. Ils n'avaient pas la soude, mais ils utilisaient des cendres mélangées avec de l'eau pour créer du savon. Donc,
okay.
C'est pas forcément avec les mêmes ingrédients, mais le principe, c'est le même.
Voilà. Et ça demande beaucoup de matériel pour le faire, ou avec pas grand-chose, on peut faire du savon à la maison?
Tout le monde peut le faire chez soi. Hein. Ça ne demande pas forcément beaucoup de...
Okay.
matériel, mais ça demande beaucoup de temps, parce que en fait la différence entre un savon qui est industriel et un savon qui est à froid, c'est que un savon industriel, c'est par l'extrusion, c'est-à-dire que ils vont acheter des petites paillettes de savon qui vont faire fondre, et en fait ils vont faire extruder d'une machine.
Okay.
Et après ils vont mettre le logo et tout de suite tu peux utiliser. Alors que le savon à froid, je dis toujours, c'est comme du fromage. C'est il faut attendre le temps de séchage, et en fait il y a toute la structure cristalline du savon qui va changer pendant une période de temps, et qui va te donner un savon plus doux, avec un mousse qui est crémeuse, un mousse qui est très généreuse. Moi, j'ai encore des savons que j'avais fait il y a 4-5 ans, et c'est vraiment comme du vin ou du fromage. Ça devient meilleur avec
le temps. Incroyable.
Donc, c'est vraiment ce côté-là qui m'a beaucoup plu aussi, cette côté artisanal.
Mais je t'arrête, comment tu t'es rencardé sur le sujet? Comment est-ce que tu as appris à faire ça? Tu regardes sur Internet?
Moi, je regarde sur Internet. Moi, je suis quelqu'un de... En fait, je suis quelqu'un qui aime trouver des projets à faire les week-ends. OK, on va essayer de faire une savon, on va cuisiner ce week-end. Moi, je veux toujours trouver une nouveauté à faire. Donc, pour moi, c'était... J'ai commencé par des recherches, en fait, sur les savons. Parce que, en fait, à l'époque, je ne savais même pas ce que c'est un savon. Parce que, surtout au Canada, on n'a pas vraiment cette culture d'utiliser des savons solides.
Okay.
Je pense qu'en France, il y a beaucoup plus de savons parce qu'il y a cette culture de savon marseillaise.
Ouais.
On grandit avec cet objet dans notre maison, alors que moi, je n'ai pas forcément utilisé les savons toute ma vie. Hein, et donc, j'étais très intéressé par qu'est-ce que c'est un savon.
Okay.
Et donc voilà, je vais commencer par les recherches. Et comme je disais aussi, je trouvais en fait une alternative plus naturelle pour ma peau parce que justement, j'ai souffert de ces problèmes de peau. Et c'est pour ça qu'en fait, je faisais aussi beaucoup de recherches sur des différentes plantes, des différentes traditions holistiques, par exemple comme l'Ayurveda, la médecine orientale, la médecine chinoise, la phytothérapie, tout ça.
Okay.
Et il y a aussi cette côté anthropologique que je voulais voir comment les différentes cultures ont incorporé des plantes dans leur pratique de médecin.
De médecine.
Voilà. Et donc voilà, je faisais pas mal de recherches sur des différentes plantes, leur usage. Je me suis rendu compte que non seulement il y avait des plantes qui aidaient ma condition de psoriasis et l'eczéma, mais il y avait tellement d'autres plantes et ingrédients botaniques qui avaient beaucoup de bienfaits pour la peau. Et je recherchais notamment des ingrédients qui étaient anti-inflammatoires parce qu'on sait tous que l'inflammation est la raison pour beaucoup de problèmes de santé, pas seulement dermatologiques. Donc, c'est très intéressant par les ingrédients anti-inflammatoires. J'ai trouvé d'autres plantes qui pouvaient aussi apaiser des peaux sensibles ou d'autres avec des propriétés antibactériennes qui peuvent aider avec l'acné, tout ça. Donc tout de suite, je me suis posé la question comment je peux intégrer ou expérimenter avec ces ingrédients dans mes savons que je faisais en fait juste pour moi-même, pour le plaisir. C'était juste un passe-temps.
Ouais.
Et donc je me souviens qu'un jour j'avais offert un de ces savons à ma copine Lani,
ouais,
qui est la cofondatrice de la marque aujourd'hui. Elle est australienne.
Okay.
Et en fait, elle aussi, elle n'a pas vraiment utilisé des savons avant. Enfin, ce n'était pas dans sa culture non plus. Et au contraire, on lui disait toujours, en fait, il faut éviter les savons solides parce que les savons dessèchent la peau. Il ne faut surtout jamais utiliser un savon pour se laver le visage, etc.
Oh my God, quelle arnaque.
Et c'était la première fois qu'elle a utilisé le savon comme un produit de soin. Et donc, elle était très, très surprise et très impressionnée, en fait, par l'odeur, la sensorialité, l'efficacité du produit. Et c'était comme ça qu'on avait commencé les toutes premières conversations autour de la création d'une marque.
Okay.
Parce que on a commencé avec le produit, en fait.
Mm.
Et on s'est posé la question, on sait qu'on a un produit qui est excellent, mais comment on peut le rendre désirable, comment on peut communiquer les bienfaits et faire changer un peu l'image du savon.
Qui est une image assez vieillotte finalement. Ouais.
Et à l'époque aussi, c'était pas comme aujourd'hui quand tu vas dans un grand magasin, un boutique chic, il y a des savons partout. À l'époque, c'était que chez Naturalia tu trouves des savons dans les marchés les samedis, ce genre de choses.
C'était
pas forcément à la mode à l'époque. Enfin, il y a 2-3 ans.
Ouais. Qu'est-ce qu'elle a fait elle comme avant Lenny?
Elle était styliste en freelance et après elle travaillait dans la logistique et e-commerce pour une marque australienne de luxe. Donc, c'était toujours avec des rapports avec la mode.
Zimmermann, aussi. C'est ça. Hein. Je suis sur son LinkedIn en même temps. Trop bien. Et à quel moment vous vous dites on va en faire une marque, un business de cette histoire de savon? C'est au moment du confinement, quoi. Au moment
du confinement.
Du COVID.
Parce qu'en fait, on n'a pas... on n'a pas, comme je t'ai dit, on n'a pas commencé sur le projet pendant le confinement. C'était déjà un projet
qui était qui
était en cours, hein, parce que on avait tous les deux nos boulots. C'était vraiment notre creative outlet. Et moi, qui viens du monde de l'art, je faisais la prod. Elle était styliste, mais elle travaillait dans l'e-commerce et tout. Pour nous, c'était le plus essentiel du projet, c'est d'avoir un moyen de nous exprimer.
Ouais.
Et on a vraiment travaillé sur le projet petit à petit, sur les week-ends, après le boulot. On est très, enfin, hyper naïf. On n'a pas, enfin, évidemment, on n'a pas eu de business plan. On n'a même pas rêvé de quitter nos boulots pour travailler, enfin, pour se lancer dans ce projet à plein temps. C'était vraiment par hasard qu'on avait trouvé des graphistes à Londres qui voulaient bosser avec nous sur le projet, sur les packaging, tout ça, mais c'était toujours nous qui faisait la DA, et je pense que ça fait vraiment partie de l'ADN de la marque, qui est notre univers visuel. Donc pendant le confinement, on avait lancé la marque juste sur Instagram, parce que on avait déjà quelques centaines de followers, parce que même avant le lancement, on postait des jolies images, on construisait déjà un univers autour de la marque, les gens étaient très curieux de savoir ce que c'est comme marque. Tout de suite, on a eu des très bons retours, on avait commencé on avait un petit espace à Paris, dans mon immeuble, où on faisait nous-mêmes les savons. On pouvait faire 70 savons à la fois maximum par jour. Donc très rapidement, on s'est dit ok, c'est plus possible, on est en rupture.
Faut qu'on industrialise.
Tous les deux jours. Il faut qu'on trouve vraiment quelqu'un, un partenaire qui pourrait nous accompagner si on veut vraiment développer la marque.
Ouais, faire un business. Tu parles de ton univers visuel qui est très fort, Auris. C'est quoi au démarrage? Comment vous avez construit cet univers visuel qui est extrêmement fort, en effet? Et moi, c'est ce qui m'a capté, hein, dans votre marque, avant même le produit. Comment est-ce qu'on construit un univers aussi fort, aussi léché, et ce, dès le démarrage? Parce que, alors, je ne sais pas si vous avez supprimé des images sur votre Instagram, ou si c'est vraiment premier post, c'était vraiment déjà abouti. Ok. Et comment est-ce qu'on construit ça? Parce que c'est une question, moi, qu'on me pose souvent, les gens qui veulent entreprendre. On commence par quoi pour se faire une image qui soit très personnelle et très forte en même temps? Quelle a été votre méthode, vous?
C'était assez simple, c'était des choses qui nous inspiraient personnellement.
Ouais. Parle bien dans le micro.
Et c'était assez naturel, hein. Quand on faisait des mood boards, on connaissait déjà pas mal de photographes sur Paris, surtout on savait déjà ce qu'on aimait, ce qu'on n'aimait pas. Et c'était assez évident. On s'inspire toujours de la nature, même dans nos packaging, les formes, les couleurs, tout ça, ça vient de la nature. Donc la nature est quelque chose qui nous inspire beaucoup, au niveau visuel, mais aussi au niveau des ingrédients. On trouve des très jolies formes dans la nature, très jolies couleurs. Y a ça, y a aussi la mode, parce qu'en fait on est une marque de cosmétiques, mais je pense que aussi on s'inspire beaucoup de la mode. Travailler avec les photographes de mode, comment on traite aussi nos produits, pour nous ce sont des objets fonctionnels, des sculptures, et comment on avait traité dans les images aussi, je pense que on peut constater que en fait c'est pas juste un simple savon. Comment on aborde le sujet, pour nous c'était toujours il y a toujours le côté fonctionnel, le côté soin, mais aussi c'est un objet qu'on va qu'on va avoir dans notre dans nos salles de bain toute la journée, c'est comme un objet de décor. Et je pense que aujourd'hui aussi, avec la consommation des produits cosmétiques, c'est aussi un moyen de s'exprimer.
Bien sûr.
Il y a beaucoup de gens qui font des selfies sur Instagram, ils font poster leurs produits cosmétiques. Donc, au final, les produits cosmétiques, c'est aussi un sorte de objet de décor au final.
Bien sûr, bien sûr. C'est clair. Hyper intéressant. Le logo, là, vous avez bossé, donc tu me disais, avec un graphiste, des graphistes. C'était quoi le pitch que vous leur avez fait à l'époque? Comment est-ce qu'on arrive à ce résultat qui est très réussi? Vous vous rappelez des discussions que vous avez eues avec eux?
Oui. En fait, c'était des jeunes graphistes aussi qui viennent de sortir de l'école. Et en fait, ils avaient, enfin, dans leur portfolio, ils travaillaient que pour des galeries, des musées, ce genre de clients. Ils n'étaient pas du tout dans le packaging, dans l'e-commerce, dans ce genre de choses. Et en fait, c'est ça qui nous a beaucoup attirés, parce qu'ils étaient clairement inspirés par le monde de l'art.
Okay.
Je me souviens plus exactement de les premières conversations, mais en fait, on a pitché l'idée, c'est en fait, comment on peut rendre un savon désirable. Je pense que c'est comment on peut éduquer les gens par rapport aux bienfaits du savon, comment on peut construire une belle image, un bel objet. Et je pense que c'était ça. C'était ça la conversation qu'on a eue.
Trop bien. Une fois qu'on a ce produit qui est fabuleux, que peut-être pour architecturer, en tout cas structurer, pardon, notre conversation, c'est comment... Parle-nous des différents milestones peut-être de la marque entre le moment... On a déjà évoqué cette idée, ce besoin. Toi, tu trouvais pas le produit qui te correspondait, donc c'est vachement intéressant de dire tu t'es créé le produit que tu cherchais. Il y a cette dimension où avec Lainey, vous réfléchissez à ce side project comme ça qui vous nourrit, qui nourrit votre besoin de créatif, de faire quelque chose de beau, de créatif, etc. Et entre ce moment et le moment où vous commencez à produire votre produit, que vous le vendez et que vous créez votre site internet et que vous vous développez maintenant à l'international, qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez structuré votre business étape par étape, en sachant que vous êtes tous les deux des créatifs, vous n'êtes pas des businessmen? Et donc, c'est intéressant de comprendre comment vous vous êtes entouré, structuré, et que vous avez découvert ce monde du e-commerce, du business.
D'abord, on n'a pas du tout structuré. C'est en fait, je pense que beaucoup de gens qui ne sont pas entrepreneurs, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est quand tu es entrepreneur, enfin, tu es tellement débordé, parfois tu n'as même pas le temps de réfléchir. Quand tu es founder dans une petite start-up, dans une petite entreprise, une petite boîte, tu fais tout. Parfois tu peux même pas prendre le temps de regarder en arrière pour voir en fait tout ce que tu avais accompli, comment tu es arrivé. Et je pense qu'il y avait des moments où on se sentait un peu handicapé, parce que on n'était pas issu des écoles de commerce, on pensait que on pouvait pas faire certaines choses nous-mêmes, par exemple en comptabilité ou faire des projections de nos chiffres, etc. Mais aussi je trouve que c'est aussi grâce à ça, cette ignorance et naïveté, que on est allé aussi loin, parce que je pense que si on avait commencé le projet au début avec tout ce qu'il faut, soi-disant, faire le PP, calculer les marges, tout ça, faire le P&L sur 5 ans, enfin, arrêter tout de suite.
Abandonner, ouais.
Ça peut tuer le rêve rapidement parce que ce sont les côtés qui sont pas du tout sexy de lancer un business.
C'est
de structurer, mais petit à petit, bien sûr, depuis 2 ans qu'on a lancé la marque, on a appris tellement de choses, on a rencontré tellement de gens qui nous aidaient, parce que je me souviens, la première fois qu'on a été contacté par une boutique à Barcelone qui voulait stocker nos savons, il nous a demandé notre catalogue, notre liste de prix, enfin on savait même pas en fait c'est quoi les marges en fait, est-ce que c'est x2, est-ce que c'est 2,5,
c'est quoi d'ailleurs, c'est quoi dans le monde du savon,
dans le monde cosmétique en général, ils attendent des marges entre 50 et 60%.
D'accord,
eux.
Donc ça veut dire quand eux vendent un savon disons 20 euros, tu leur vends 10 euros, c'est ça?
Oui.
Ok, hors taxe. Et eux, ils le vendent TTC.
Oui, c'est ça. Et par exemple, aux États-Unis, c'est un peu, ils demandent un peu plus. Ça dépend des pays. Ça dépend des retailers. Si c'est un très bon retailer, ils vont demander plus parce qu'ils savent qu'ils peuvent.
Ils ont le pouvoir. Ouais.
Ils ont le pouvoir.
D'accord. Voilà. Finalement, c'est un peu comme dans la mode.
Exactement.
C'est parce que tout retailer, j'ai l'impression qu'il veut faire un x2,5 minimum, quoi, pour pouvoir fonctionner. Et c'est la mode comme dans la cosmétique. D'accord. Donc là, on en était où là sur la structuration du business? Oui, ce que tu me disais, c'est que vous avez appris en marchant et qu'il n'y avait même pas de price list pour vos retailers. C'est ça que tu es en train de me dire?
Oui, c'est ça. Mais en fait, ce genre de choses, on a dû trouver des réponses rapidement parce qu'on avait de plus en plus de demandes wholesale. Parce que quand on s'est lancé le business, c'était toujours l'idée, c'était d'être une marque D2C, direct to consumer. Et en fait, la réalité, c'était pas ça, parce que on avait eu beaucoup, beaucoup plus de demandes en wholesale que les ventes en D2C, et qui n'étaient pas forcément une mauvaise chose, parce que au final, notre clientèle, ils ont vraiment besoin de voir le savon, de toucher, de sentir tout ça. C'est ça qui fait que les gens achètent ce produit-là. Donc on est très content d'être présent dans des boutiques.
Trop bien. Et aujourd'hui, vous êtes distribué dans combien de boutiques?
J'ai pas le nombre exact, mais c'est partout dans le monde, c'est entre 70 et 80.
Ouais, c'est énorme. Ok, très bien. Et vous vendez aussi en direct au consumer.
Ouais.
Et aujourd'hui, la part du business, c'est quoi? C'est 50-50 ou c'est beaucoup plus important sur le wholesale que sur le direct au consumer?
C'est plus important sur le wholesale que le consumer.
Ah, c'est marrant.
Surtout après le Covid, parce que évidemment, il y avait beaucoup de gens qui faisaient des achats en ligne, quand ils étaient coincés chez eux. Mais maintenant, je pense que les gens, ils ont envie de quitter leur maison, de faire du shopping, tout ça. Donc, je pense qu'il y a vraiment le côté retail qui revient.
Ouais.
Et il y a beaucoup plus d'investissements aussi dans des espaces retail. Voilà.
Trop bien. J'aimerais bien qu'on parle de la production. Tu l'évoquais tout à l'heure. Au début, tu le faisais dans ta cuisine, après dans un petit local en bas de chez toi. Vous faisiez 70 savons par jour.
Ouais.
Et comment s'est passé? Alors, parce qu'à un moment donné, vous êtes dû vous industrialiser, entre guillemets, même si ça reste artisanal. Vous avez été chercher qui? Vous avez trouvé qui pour vous faire ces savons de la manière dont tu l'avais développé, parce que c'est une manière bien particulière quand même.
Pendant la première année, on était en rupture
tout
le temps, parce que justement on pouvait pas répondre à la demande et on a dû trouver une solution rapidement. Et en fait, déjà dès le premier jour, on voulait garder la fabrication en France parce qu'on est une marque française. On est très inspiré par le savoir-faire français et surtout, il y a toute cette histoire, enfin, cette longue histoire de savon, des savonneries en France, et c'était quelque chose qui était très, assez important pour nous.
Okay.
Et il faut savoir aujourd'hui que la saponification à froid, c'est quelque chose que personne veut faire.
Okay.
Parce que, comme j'avais expliqué, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup de savoir-faire. Et c'est une science, mais aussi c'est aussi un art, parce que c'est comme, enfin, il faut couper à la main, nos savons sont tamponnés à la main. On avait parlé avec plein de différents laboratoires en France, en Europe. Tout le monde faisait des savons ou des nettoyants solides, mais pas des savons à froid. Et on avait parlé avec plusieurs savonneries, notamment dans le sud de la France, parce que c'est connu dans le sud pour ce genre de produit. Mmh. On a finalement trouvé quelqu'un qui faisait le savon exactement comme on faisait nous-mêmes.
D'accord.
C'est-à-dire à froid, mais qui voulait aussi utiliser nos formules, nos processus, nos méthodes de fabrication, parce qu'il y a quand même des choses qui sont un peu compliquées dans nos formules. Par exemple, on va faire macérer certaines herbes dans de l'huile d'olive pendant plusieurs semaines pour faire un extrait de millepertuis, par exemple. Donc, ce genre de travail, les laboratoires standards, ils n'ont pas forcément envie de le faire parce que c'est chiant.
C'est pas rentable. C'est
pas rentable. Mmh. Donc, on a eu la chance de trouver quelqu'un qui correspondait exactement à ce qu'on recherchait. C'était pas évident. C'était comment on a pu industrialiser. Même si ils font exactement la même chose que nous, sauf que ils font dans des grosses moules, ils ont beaucoup plus d'espace, ils font beaucoup plus de personnel. Mais
et comment vous les avez trouvés?
Sur Google, j'appelais des gens, enfin j'appelais, je sais pas, 50 entreprises, 60 entreprises qui faisaient soi-disant des savons, mais en fait au final ils faisaient des savons à l'extrusion et non à froid.
Donc
tout de suite on a pu éliminer des gens parce que c'était juste quelque chose qu'ils faisaient pas, et en fait c'est dur de trouver aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train de disparaître aussi.
Mais vous ressuscitez ce savoir-faire. Hyper intéressant. On peut donner le nom de ces gens-là? Comment ils s'appellent? Non.
Non, on va pas. on va pas donner le nom de.
Ouais, ça marche. Ok, pas de problème. Je comprends. C'est le secret de fabrication.
Ouais.
Je tombe par hasard aussi sur Hermès, qui a un savon glycériné. J'imagine que ça aussi, c'est pareil. Ils doivent faire du savon à froid. C'est leur fameux savon, c'est ça?
Je m'en doutais que non. Parfois, si on voit un savon, on peut voir tout de suite si la forme est très parfaite.
Ouais.
Y a le logo qui est parfait. Tout est comme un objet industriel. Je dirais 90% du temps, c'est du savon à l'extrusion, et c'est pas le savon à froid.
Ok, très bien, hyper intéressant. Comme ça, on saura si c'est du vrai ou du fake.
Si tu vois un savon qui est un peu moche, je dirais que c'est du vrai, en fait.
Okay.
C'est un savon qui se ressemble à du fromage.
Ok. Qu'est-ce qu'on achète quand on achète... Qu'est-ce qu'on achète de plus qu'un savon quand on achète Auris? Ma question, c'est quoi votre plateforme de marque, votre mission, votre vision, votre ADN? Qu'est-ce que vous vendez en plus?
Ce qu'on vend, c'est en fait le côté bien-être, de découvrir en fait les bienfaits des plantes, mais aussi le côté de prendre plaisir dans le rituel de se laver, le rituel de soins. Le fait qu'on peut acheter un savon à 20€, 22€, mais c'est un peu petit objet de luxe qui est à la fois un essentiel, mais à la fois c'est quelque chose qui peut t'apporter un peu de plaisir à chaque fois que tu te laves, que tu te laves tes mains, tu te laves ton visage. Donc c'est ce côté de rituel aussi qu'on veut construire autour autour de la cosmétique.
Ok. Tu me disais dans les notes de en préparation que vous aviez été confronté, voilà. Quels ont été les challenges quels ont été les challenges auxquels vous avez été confronté? Tout à l'heure, on parlait du fait que vous n'étiez pas forcément très structuré, que vous avez appris les choses sur le tas en avançant. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes fait peur? Est-ce que vous avez été mis en danger parce que justement, vous êtes décréatif? Ou est-ce que tu te rappelles de moments comme ça compliqués?
Oui, je pense que comme tout le monde, c'est toujours une question de trésorerie. Comment on peut non seulement continuer le business, mais comment on peut développer d'autres projets? Comment on peut investir dans d'autres projets intéressants?
Ouais.
C'est toujours ça la grande question. Mm. C'est toujours ça qui est le plus compliqué pour les creatives ou non creatives. Mais je pense que un qualité que je trouve que chez les creatives, c'est que en fait on sait faire des choses avec très peu d'argent. On sait toujours se débrouiller. Comment on peut faire une belle image pour très peu d'argent? On n'a pas besoin forcément de payer 5000 euros à un photographe, d'embaucher un DA, si on peut faire tout ça nous-mêmes, si on peut faire appel à un ami.
D'ailleurs, vous avez tout fait vous-même, les photos, etc.
Non, c'était pas du tout, au contraire. On avait rencontré beaucoup de gens cool. Enfin, à Paris, en Europe, qui ont proposé en fait qu'on n'avait pas du tout de l'argent de shooter gratuitement, juste parce que ils croyaient en nous. Enfin, ils adoraient les produits, ils trouvaient vraiment que c'était juste un produit exceptionnel. C'était pour un projet créatif aussi de faire quelques natures mortes pour nous. C'est grâce à eux aussi qu'on a notre image aujourd'hui.
Trop bien. Comment est-ce que vous parle-moi un petit peu du développement des produits, parce que aujourd'hui vous avez une collection de combien de savons?
Il y a quatre
savons. Hein. C'est le coffret que tu m'as amené. Vous faites que quatre savons. Ça fait 2 ans que vous avez que 4 savons. Et vous arrivez à faire vivre une entreprise comme ça avec 4 savons. Quelle est la part de recherche et développement? Vous voulez aller vers quoi? Est-ce qu'on peut décliner un nombre de savons de façon illimitée? Est-ce qu'on peut faire que du monoproduit, du savon? C'est quoi l'idée que vous avez derrière la tête?
Pour l'instant, on est une marque de cosmétiques monoproduit. On est très connu pour nos savons. Mais on a une vision beaucoup plus large. Sur ce qu'on veut faire avec la marque, les produits qu'on souhaite développer, tout autour de prendre soin de son corps, de son visage. Donc ça sera, l'idée c'est vraiment de développer toute une gamme de produits de cosmétiques pour le corps, pour le visage, mais pas que. On veut aussi introduire par exemple des accessoires, des outils, ce genre de choses. Je ne peux pas trop dévoiler maintenant, mais ce sont des choses sur lesquelles on travaille depuis longtemps.
Okay.
Par exemple, on travaillait sur le produit pour le corps depuis presque 1 an et demi, et on a dû recommencer à zéro parce que la personne avec qui on travaillait, c'était un produit qui ne nous plaisait pas du tout, et on s'est dit en fait on peut pas sortir quelque chose qui est pas top. Surtout parce que jusqu'à présent on était monoproduit. Donc le prochain produit, il faut que ce soit excellent.
Bien sûr.
Sinon c'est pas possible,
c'est clair,
parce qu'on a eu plein d'opportunités de faire des trucs faciles, des produits cosmétiques plus évidents, qui prend pas beaucoup de temps au niveau de développement, qui serait facile à produire, Mais pour nous, on a dû dire non à plein de choses parce que ça ne correspondait pas à ce qu'on veut sortir. Et pour nous, c'est plus important.
Vous avez mis la barre tellement haut avec votre premier savon et en même temps, vous avez mis tellement de temps aussi à le développer. Ça a été un long cheminement pour toi dans tes recherches et développement que ça serait dommage de bâcler le deuxième produit, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Donc l'idée c'est vraiment ça. Revenons peut-être sur le développement de l'entreprise. Aujourd'hui vous êtes présent à l'international déjà, ou vous êtes présent dans le monde entier, vous shippez partout en D2C?
Ouais. On ship partout, on travaille avec un distributeur au Japon, un agent en Australie, un agent de vente, un distributeur aux États-Unis aussi environ. Okay. On vient de lancer aux États-Unis.
Hyper intéressant.
C'est un marché qui est pour nous très important parce que même notre clientèle D2C, c'est surtout en France et aussi aux États-Unis. Parce que je pense que en fait, l'image qu'ils ont des produits made in France, tout ça, c'est très, très attirant pour eux. Ils adorent, enfin, pour eux, tout ce qui est français, ils adorent.
Bien sûr.
Aussi, je pense qu'il y a aussi cette image de la France ou des produits français aussi au Japon, ils adorent tout ce qui est produit en France.
Ouais. Et d'ailleurs, vous avez mis Paris dans votre nom, c'est Oris Paris.
Ouais.
Alors que toi, tu es canadien et que ta cofondatrice, elle est australienne. C'est assez drôle. Trop bien. Donc là, tu dis que tu travailles avec des agents, des distributeurs. Eux, ils sont. Comment vous les avez trouvés? Ils prennent quoi en com quand ils font une vente pour vous?
Donc, je pense que aujourd'hui, il y a deux modèles de distribution pour les produits cosmétiques. Je pense que il y a le modèle plus traditionnel de la distribution, c'est qu'ils achètent vos produits et après ils vont revendre. À différentes boutiques, des grands magasins, etc. Et il y a aussi un nouvel modèle de distribution qui est les agences. Donc, ils vont trouver pour toi des clients, des boutiques, des acheteurs qui sont intéressés et ils vont prendre une commission.
D'accord.
Donc,
ils prennent quoi? Ils prennent entre 10 et 15% des ventes qu'ils réalisent?
Oui, ça peut aller jusqu'à 20%.
Ok.
Ouais, mais en fait, ils peuvent s'occuper de tout, les négociations, les communications avec tes boutiques, aussi juste garder la relation avec les acheteurs et aussi faire la partie formation qui est très importante aussi, surtout avec les produits comme les nôtres. C'est en fait il y a une grande partie aussi de formation et on vient de se rendre compte de ça très récemment, il y a 6 mois, 7 mois, qu'en fait il faut vraiment former les gens, des gens qui vont vendre tes produits, parce que au final, s'ils comprennent pas pourquoi ton produit est spécial, pourquoi il y a autant de bienfaits, ça va rester un savon sur une étagère, il n'y a aucun intérêt. Si on ne peut pas communiquer directement avec notre clientèle, ce qui est important de la marque, ce qui est l'essentiel à retenir, pourquoi on peut utiliser un savon sur un visage, c'est un produit qu'on avait en fait développé pour le visage et le corps. Pourquoi c'est pas... Quelle est la différence entre un savon qu'on peut trouver au supermarché et les savons à froid que nous on fait? Si on ne peut pas communiquer ça avec notre client, le produit ça va pas se vendre tout seul, donc il y a cette partie aussi de
formation,
de formation, voilà.
Et comment vous faites d'ailleurs, parce qu'il faut aller dans chaque boutique faire une heure, deux heures de formation?
On fait ça en général sur Zoom, sur en ligne. On va essayer d'avoir maximum de gens sur le call possible pour former tous les... En fait, c'est plus important, c'est pas de former l'acheteur, mais c'est de former en fait l'équipe qui est sur le floor, qui est les conseillers de vente, en fait. Eux, il faut que eux ils comprennent le produit, ils comprennent la marque. On donne aussi des échantillons à eux de tester, parce que sans tester le produit, comment
c'est
tu peux le vendre?
Bien sûr.
Ça, c'est très important aussi.
Est-ce que vous refusez d'être dans des boutiques? J'imagine que vous avez une stratégie très sélective dans vos choix de boutiques. Parce que vous êtes un produit de luxe quand même.
Oui, ça, bien sûr, ça nous arrive de refuser des boutiques si en fait ça correspond, si leur sélection de produits ne correspond pas forcément à notre image de marque, ou si parfois on sait déjà que en fait notre produit ça va pas être It won't be sold.
Ouais, ça ne sera pas vendu.
Ça sera vendu dans le magasin, on va dire non. C'est facile de deviner en fait. Tout de suite, on peut savoir si c'est un bon magasin, c'est pas le bon.
Comment
choix,
tu vois, tu en fonction de la sélection qu'il y a
en
sur leur site web.
Tu vas pas tous les voir, toi. Non, on peut pas. Enfin.
Ce sera pas possible.
Ce sera pas possible. Hein. C'est en fonction vraiment de la sélection, comment ils présentent leurs produits. Déjà, s'ils acceptent de faire le training, la formation, parce que s'ils sont pas intéressés, ça veut dire qu'en fait, ils vont pas s'investir dans la marque, ils vont pas s'investir dans l'histoire. Donc déjà, pour nous, c'est red flag.
D'accord.
Voilà.
Sur votre site web, vous l'avez développé, c'est un Shopify, je vois.
Oui.
Vous avez acheté un thème ou vous avez développé votre propre thème ?
Non, c'était un thème qui existait déjà, mais on avait travaillé avec nos graphistes et un développeur pour customiser.
Ok. Et vous avez un logisticien ou vous gérez la logistique vous-même encore ?
Non, on gère toujours nous-mêmes.
Ouais.
Et comme on a lancé aux États-Unis aussi, on espère de pouvoir trouver une solution logistique directement là-bas, de pouvoir avoir une sorte de warehouse ou une sorte de 3PL qui peut gérer ça, parce que déjà, ça coûte très cher d'envoyer les produits de la France au Japon ou aux États-Unis, c'est loin. Donc, pour l'instant, on fait tout nous-mêmes, mais on est en train de trouver des solutions.
Vous faites payer la livraison à vos clients, on est d'accord ?
Oui, mais
pas le vrai prix.
Pas le vrai prix, parce que ça coûte
beaucoup plus
cher.
Ouais.
Ouais, et ça a beaucoup augmenté depuis qu'on avait lancé la marque, surtout avec la Covid, avec la Russie, avec le gazole, tout ça. Aujourd'hui, ça coûte énormément cher d'envoyer même des petits colis, en fait.
Ok. Vous êtes confiant pour l'avenir ? Vous êtes confiant pour la suite des événements ? Vous avez un super produit qui est demandé, qui, j'imagine que les gens qui testent rachètent beaucoup. Vous avez un taux de rachat et de fidélité qui est assez ouf, non ?
Oui, on a eu des très bons retours. On voit souvent des clients qui rachètent. On est très confiant pour l'avenir. On est un peu impatient de sortir les prochains produits.
Okay.
On a déjà 15 produits qu'on a en tête, qu'on veut sortir. Enfin, on n'a pas commencé à travailler sur tous les produits, mais on a toute une gamme entière de produits qu'on veut proposer, parce que on veut pas forcément, dans 5 ans par exemple, on veut pas forcément être connu pour être une marque de savon. On veut être connu pour une marque de soins, une marque de bien-être, mais pas forcément uniquement une marque monoproduit.
Très bien. Je pense qu'on a fait un joli tour quand même déjà. Vous aujourd'hui vous êtes full time sur le projet, donc vous avez quitté votre job, vous continuez à faire du freelance à côté pour
on n'a pas le temps,
d'accord,
de le faire,
et vous arrivez à vous payer et à vivre sur la société.
Oui,
bravo, c'est beau, trop bien. Je sais pas, est-ce qu'il y a des sujets que tu voulais aborder qu'on n'a pas abordé? Est-ce que tu as des choses en tête comme ça?
Non, je pense que
je sens qu'on a fait un bon tour. Ouais.
Ouais.
C'est quoi les marques qui t'inspirent toi aujourd'hui?
Des marques qui m'inspirent. Je suis inspiré par des fondateurs qui ont lancé des marques vraiment de zéro, qui n'ont pas fait de levée de fonds, qui n'avaient pas de moyens qui vient pas des familles riches, qui ont réussi à créer quelque chose. Quand je me balade dans mon quartier, je suis impressionné par les petits restaurants, les petits commerces qui existent, parce que étant entrepreneur, on sait aujourd'hui qu'en fait un fonds de commerce ça va coûter 50 000 euros, d'avoir 4 employés qui bossent dans ton petit restaurant, ça va, je peux pas imaginer combien ça coûte. Donc c'est des gens comme ça qui m'inspirent beaucoup, et voilà, qui me donnent de l'espoir en fait.
C'est clair, trop bien. J'aime bien, tu sais, poser cette question pour passer le relais. C'est qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast?
Je ne sais pas si tu l'as déjà interviewé. C'est un parfumeur qui s'appelle Barnabé Fillion.
Non, je n'ai jamais interviewé.
C'est lui qui a réalisé tous les parfums pour Aesop et a lancé sa marque de parfums qui s'appelle Arpa. C'est un projet hyper, hyper intéressant. C'est quelqu'un très intéressant qu'on avait rencontré, je pense, qu'il y a un an.
Okay. Qui est en France? Qui est français?
Oui, qui est français.
Génial.
Il y a un studio à Paris. Et c'est quelqu'un de très inspirant pour nous.
Ok. Trop bien. Eh ben, je vais aller le rencontrer, Barnabé Fillon. Génial. Merci infiniment pour ton temps. Bravo pour ce que vous faites. Merci pour le petit coffret que tu m'as offert.
Merci pour ton accueil.
Très bonne continuation. Et au plaisir, on se recroisera sans doute au parc à chiens.
Oui.
Avec ton chien qui s'appelle Harry. C'est ça. Et Harry et Salto sont assez potes d'ailleurs. Ils s'aiment bien. Bonne continuation. Salut ta cofondatrice et à très vite. Bye bye.
Bye.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, c'est simple. Allez sur le blog du podcast www.entreprendredanslamode.com. Aussi, si vous souhaitez me contacter ou me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez le faire sur Instagram sous le pseudonyme @entreprendredanslamode. Enfin, le plus important, laissez-moi un avis sur Apple Podcast ou iTunes, 5 étoiles de préférence. Cela m'aide à faire connaître le podcast à plus de monde et m'encourage à faire de meilleures interviews. Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.